Chapitre 13. Schweik porte les derniers sacrements. Le front appuyé sur sa main, le Feldkurat Otto Katz était plongé dans la lecture d'une circulaire qu'il venait de rapporter de la caserne. Cette instruction confidentielle du ministère de la guerre s'exprimait ainsi. Le ministère de la guerre de l'Empire supprime pour la durée de la guerre les prescriptions concernant l'extrême-onction à donner aux soldats en danger de mort et arrête les règles suivantes à observer par les aumôniers militaires. Premièrement, au front, l'administration de l'extrême-onction est supprimée. Deuxièmement, il est défendu aux soldats gravement malades ou blessés de se retirer à l'arrière en vue de recevoir l'extrême-onction. Les aumôniers militaires sont tenus à signaler aux autorités militaires supérieures, aux fins de poursuite légale, les soldats qui contreviendraient à ces dispositions. Troisièmement, dans les hôpitaux militaires de l'arrière, il est permis d'administrer l'extrême-onction sous forme collective, après l'avis favorable des médecins militaires, en tant que cette autorisation ne comporte aucun dérangement pour les dites autorités militaires. Quatrièmement, dans des cas exceptionnels, le commandant des hôpitaux militaires de l'arrière peut autoriser l'administration de l'extrême-onction suivant qu'il le jugera nécessaire. Cinquièmement, sur l'invitation des commandements des hôpitaux militaires, les aumôniers militaires sont tenus à donner l'extrême-onction aux personnes proposées par la dite autorité pour recevoir ce sacrement. Ce qui intéressait le Feldkurat, plus que la circulaire, c'était une lettre du commandement de l'hôpital de la place Charles, l'invitant à venir le lendemain pour donner l'extrême-onction aux soldats grièvement blessés. « Dis donc, Schweik, c'est pas un sale coup, tout ça? Comme s'il n'y avait que moi comme aumônier militaire dans tout Prague. Mais pourquoi, je vous le demande, m'en charge-t-on pas, cet aumônier si pieux et qui a couché l'autre jour chez nous? Je dois donner l'extrême-onction aux soldats de l'hôpital de la place Charles. Mais du diable, si je sais encore comment on fait !»« Rien de plus facile, monsieur l'aumônier, répondit Schweik. Nous n'avons qu'à acheter un catéchisme, une sorte de guidane pour les pasteurs spirituels qui ont perdu la tramontane. » Le couvent d'Emmaüs à Prague employait dans le temps un jardinier qui aspirait à devenir frère lait. On lui a donné une soutane pour épargner son habit civil et il a fallu qu'il achète un catéchisme pour apprendre comment on faisait le signe de la croix, quelle créature était indemne du péché originel, ce qui signifie avoir la conscience pure et bien d'une babiole comme ça. Ben, une fois qu'il a eu appris, il s'est mis à vendre des tomates en cachette. Et après que la moitié de la récolte y avait passé, il a dû quitter honteusement le couvent. Alors lorsque je l'ai revu, il m'a dit « Oh, j'aurais bien pu vendre les tomates sans me fouler pour apprendre le catéchisme, tu sais. » Alors Schweik alla acheter un catéchisme et le Feldkurat le feuilleta. « Tiens, dit-il. L'extrême-onction ne peut être donnée que par un prêtre qui se sert seulement d'huile bénite par l'évêque. Vous voyez bien, Schweik, que, par exemple, vous ne pourriez pas administrer ce sacrement. Lisez comment on s'y prend. » Schweik lut. Le prêtre oint avec l'huile bénite les principaux organes des sens en faisant cette prière. Que par cette sainte onction et dans la miséricorde suprême du Seigneur, te soient remis les péchés que tu as commis par les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains et les pieds. Bon, vous voudrez bien savoir, Schweik, comment on peut commettre un péché par les mains. Est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce sujet? Mais des tas de péchés, monsieur l'aumônier. Par exemple, quand on introduit sa main dans une poche étrangère, ou bien en dansant, car pour les danseurs, la défense de toucher n'existe pas. Et par les pieds, bon, quand on traîne exprès une patte pour apitoyer les gens. Et par les narines, quand on ne peut pas sentir son prochain. Et par la bouche, Shveik. Oh, quand on a une si grande faim qu'on mangerait le nez du voisin, ou bien quand on rase par des bêtises les gens qui sont assez idiots pour vous écouter, ce qui est en même temps un péché à la charge des oreilles. Après s'être livré à ces considérations philosophiques, le Feldkuran se tut. Il interrompit le silence qu'après un moment. « Ben, il nous faut donc de l'huile bénite, dit-il. Voilà 10 couronnes, vous en achèterez une petite bouteille. Évidemment, il vaudrait bien pouvoir la prendre à l'intendance militaire, mais je ne crois pas qu'il tienne cet article-là. » Shveik s'en alla à la recherche de l'huile bénite. Il peut se rendre compte qu'elle était encore plus difficile à trouver que cette eau vive que poursuivent à travers tant de difficultés les personnages de Bosena de Mkova. Tout d'abord, Shveik fit quelques droguistes, mais à peine ouvrit-il la bouche pour demander si on avait de l'huile bénite par l'évêque, que les commis se fichaient à rire ou disparaissaient derrière le comptoir. C'est en vain que Shveik gardait son air le plus sérieux. Il décida alors de voir s'il aurait plus de chance auprès des pharmaciens. Le premier le fit mettre à la porte par le garçon de laboratoire. Le second téléphona à un hôpital voisin qu'un cas de folie subite était survenu dans son établissement. Le troisième enfin conseilla à Shveik la firme Polak dans la Dula Trida, maison fournissant spécialement des huiles, des couleurs et des vernis. Le renseignement était bon. La maison Polak ne laissait jamais partir un client bredouille. À celui qui demandait par exemple du baume de Copaïva ou donnait de la térébenthine, et tout était dit. Lorsque Shveik exposa sa demande en stipulant qu'il lui fallait absolument de l'huile bénite, le patron enjoignit au commis. Oh, donnez-lui 10 décagrammes d'huile de chènevis, numéro 3, monsieur Toshan. En enveloppant la petite bouteille dans du papier de soie, le commis dit à Shveik d'un ton professionnellement poli. Bien, c'est tout ce que nous avons de mieux dans cet article, première qualité. Et si vous avez plus tard besoin de pinceaux, de couleurs et vernis, vous trouverez tout ça chez nous. Vous serez certainement bien servi. » En attendant sa fidèle ordonnance, le Feldkurat parcourait le catéchisme pour se remettre en tête ce qu'il avait jadis mal appris au séminaire. Il s'amusait beaucoup de certaines phrases d'une spirituelle précision, du genre de celle-ci. Le terme d'extrême onction doit son origine au fait que dans la plupart des cas, elle est la dernière onction que les fidèles reçoivent de l'Église avant leur mort. Ou bien, l'extrême onction peut être reçue par tout catholique qui est dangereusement malade et jouit de toute sa connaissance. Ou encore, le malade doit recevoir l'extrême onction autant que possible au moment où il possède encore toute sa mémoire. Une ordonnance apporta une lettre qui prévenait le Feldkurat que l'Association des Dames Nobles pour l'éducation religieuse du soldat assisterait à la cérémonie du lendemain. Cette association était composée de vieilles personnes hystériques qui parcouraient les hôpitaux en distribuant aux soldats des images de sainteté, des historiennes édifiantes, dont le héros était toujours un soldat catholique heureux de mourir pour l'empereur. Ces brochures étaient illustrées. On y voyait un champ de bataille couvert de cadavres d'hommes et de chevaux, de convois et de fourgons mis en pièces, de canons renversés. L'horizon était occupé par des villages en flammes et des shrapnels qui éclataient dans tous les sens, tandis qu'au tout premier plan, un soldat auquel un obus venait de couper la jambe recevait des mains d'un ange une couronne sur le large ruban de laquelle figurait une inscription alléchante. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Le moribond souriait comme si on lui avait offert un rafraîchissement délectable. Ayant parcouru le contenu de la lettre, le Feldkurat s'écria tout en crachant Et promet la journée de demain. Il connaissait bien cette bande de tartuffes femelles, comme il l'appelait, pour l'avoir souvent vue dans le temps à ses sermons de Saint-Ignace. C'était encore le temps où il prêchait avec toute la candeur naïve du jeune ecclésiastique. Ces dames avaient leur banc derrière celui du colonel. Une fois, deux grands escogriffes en noir, et portant d'énormes chapelets à leur maigre cou, l'avait attendu à la sortie pour l'entretenir pendant 2 heures de l'éducation religieuse des soldats. Elle n'aurait jamais eu fini si le Feldkurat n'avait rompu en disant « Excusez-moi, mesdames, mais le capitaine m'attend pour une partie de cartes. » « Il y a du bon, monsieur l'aumônier, » prononça solennellement Schweik, revenu de sa course. Notre huile bénite, je l'ai trouvée. Oh, c'est de l'huile de chènevis numéro 3, première qualité. Avec ça, nous avons pour moindre tout un bataillon. La maison Polak tient les meilleures marchandises de tout Prague. Elle vend aussi des couleurs, des vernis et des pinceaux. Il ne manque plus qu'une sonnette. Et pourquoi faire, mon petit Schweik? Comment? Mais il faut sonner le long de la route. Pour que les gens ôtent leur chapeau en voyant passer le sacrement. C'est-à-dire l'huile numéro 3. Ça se fait toujours, et je connais pas mal de gens qui ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas salué le sacrement au passage. Un Sirkoff, un curé, a une fois roué de coups à l'aveugle, qui dans un cas comme ça n'avait pas ôté son chapeau. Et ce malheureux a attrapé plusieurs mois de prison par-dessus le marché. Parce qu'on lui avait prouvé qu'il n'était pas sourd, mais seulement aveugle, et qu'à défaut de voir, il aurait pu entendre, et que sa conduite avait causé beaucoup de scandales autour de lui. C'est comme à la fête de Dieu. Des gens qui, autrement, ne feraient même pas attention à nous, sont obligés ce coup-ci de se découvrir. Oh, si vous y voyez pas d'inconvénient, je vais aller immédiatement à la recherche d'une sonnette. Cette permission obtenue, Schweik revint une demi-heure après, muni d'une sonnette. « C'est la sonnette du portier de l'auberge Christ, dit-il. Elle m'a coûté 5 minutes de frousse, mais il a fallu attendre assez longtemps parce qu'il passait tout le temps du monde. Bon, je m'en vais au café, Schweik. Si quelqu'un vient me demander, dites-lui d'attendre. » Une heure ne s'était pas écoulée que Schweik ouvrit la porte à un monsieur entre deux âges, à cheveux grisonnants, droit comme un nid, et au regard très sévère. Tout son extérieur révélait l'opiniâtreté et la méchanceté. Il roulait des yeux féroces comme s'il avait la mission d'anéantir à jamais le globe terrestre pour qu'il n'en restât qu'une pincée de cendre dans l'univers. Son langage était cassant et sec, chaque phrase une injonction. « Pas chez lui? Est-il au café? Je dois l'attendre? Bien, j'ai le temps jusqu'à demain matin. Alors, pour la taverne, il a de l'argent, mais pas un sou pour payer ses dettes. Ça, un prêtre? Oh, et donc ?» Il cracha sur le sol de la cuisine. « Dis donc, crachez pas comme ça, s'il vous plaît, » dit Schweik en toisant l'insolent personnage avec un intérêt particulier. « Mais je cracherai tant qu'il me plaira, tenez, comme ça, » répliqua le monsieur en joignant le geste à la parole. « C'est répugnant, la fin, un aumônier militaire, mais c'est tout simplement honteux. » « Puisque vous prétendez avoir de l'instruction, » lui dit observé Schweik, « tâchez de vous débarrasser de la sale habitude de cracher dans un appartement qui n'est pas à vous. Vous croyez peut-être que tout est permis en un temps de guerre comme celui-ci. Vous allez me faire le plaisir de vous tenir comme un homme bien élevé et pas comme un voyou. Il s'agit d'être poli, de parler comme il faut et de ne pas vous conduire comme un saligot. Est-ce compris, espèce de tour de civil ?» Le monsieur incorrect se leva, agité d'un tremblement nerveux, et cria « Mais comment osez-vous me dire ça ? Vous, est-ce que je ne suis pas un homme comme il faut ? Qu'est-ce que je suis alors ? Bagoré, mal éduqué, répondit Schweik en le regardant bien. Vous crachez par terre comme si vous vous croyiez dans le train, dans le tram ou dans un autre endroit public. Ben, j'ai toujours demandé pourquoi on y mettait des écriteaux « Défense de cracher ». Ben, je le sais maintenant, c'est à votre intention. Vous devez être un frère bien connu. Tour à tour, blême et congestionné, le visiteur se répandit en une avalanche d'invectives contre Schweik et le Feldkurat. Avez-vous tout dégoisé ? Questionna tranquillement Schweik, lorsque le visiteur indécent déclara qu'ils étaient des fripouilles tous les deux, tel maître, tel valet. Ou bien, avez-vous encore quelque chose à dire avant de dégringoler l'escalier ? Comme son adversaire se taisait pour reprendre haleine et aucune insulte ne lui venant plus à l'esprit, Schweik prit son silence pour une invitation à passer aux actes. Il ouvrit la porte, maintint le visiteur encombrant de façon qu'il vit le trajet qu'il fallait parcourir et lui appliqua un coup de pied au derrière dont la vigueur aurait fait honneur au meilleur joueur de football du meilleur club international. Le départ précipité du monsieur fut souligné de cette fine remarque émise par Schweik. Et la prochaine fois, quand vous irez en visite chez les gens comme il faut, vous tâcherez de vous tenir convenablement. Le visiteur y conduit se promenait maintenant dans la rue, guettant le retour du Feldkurat. Schweik ouvrit la fenêtre et surveillait le promeneur infatigable. Enfin, le Feldkurat apparut et fit monter son persécuteur dans la chambre. Il lui offrit une chaise et s'assit en face de lui. Schweik s'empressa d'apporter un crachoir qu'il posa devant le visiteur. « Qu'est-ce que veut dire ça, Schweik ? Ben, je vous déclare avec obéissance, monsieur l'aumônier, que ce monsieur est déjà venu tout à l'heure et que j'ai eu une discussion avec lui justement au sujet de son habitude de cracher par terre. Non, laissez-nous, Schweik, nous avons quelque chose à régler à vous deux. » Schweik s'alleva. Je vous déclare avec obéissance, monsieur l'aumônier, que je vous quitte. Tandis qu'il s'en allait à la cuisine, une conversation très animée commença entre les deux hommes. « Vous êtes venu pour votre retraite, si je ne me trompe pas ?» questionna le Feldkurat. « Oui, et j'espère !» le Feldkurat soupira. « Oh, on se trouve souvent dans des situations où tout ce qu'on peut faire, c'est d'espérer. Qu'il est beau ce mot d'espoir qui en provoque immédiatement deux autres, la foi, l'espérance, la charité. J'espère, monsieur l'aumônier, que cette somme que vous me devez... « Évidemment, honoré monsieur, interrompit le Feldkurat, je ne puis que vous répéter que ce petit mot « espérer » est éminemment propre à nous soutenir dans notre lutte pour l'existence. Ainsi, vous ne perdez jamais l'espoir d'être payé. Comme cela est beau d'avoir un idéal inébranlable, d'être un homme de bonne foi qui prête de l'argent sur une traite et espère qu'elle sera payée à temps. Espérez, toujours espérez, que je vais vous rembourser 1200 couronnes quand j'en ai à peine 100 en poche. Alors vous, parfaitement. Mais c'est une escroquerie de votre part, monsieur. Oh, ne vous agitez pas, cher monsieur. Mais c'est une escroquerie, je vous le répète, un abus de confiance. Mais je crois qu'un peu d'air frais vous ferait du bien, proposa le Feldkurat. Vraiment, on étouffe ici. Et élevant la voix pour être entendu de la cuisine, il dit « Schweik, venez ici, ce monsieur désire aller prendre l'air. »« Ben, je vous déclare avec obéissance, monsieur l'aumônier, que j'ai déjà mis ce monsieur à la porte tout à l'heure. »« Ben, remettez-le encore une fois, » commanda le Feldkurat. Schweik ne se vit pas prier pour obtempérer à cet ordre avec une joie maligne. « Voilà qui est fait, monsieur l'aumônier, » dit-il en fermant la porte. « Heureusement qu'on l'a mis dehors avant qu'il ait fait un scandale. Il y avait un bistrot qui expulsait toujours les clients trop tapageurs à coups de matraque en débitant des citations de la Bible. Par exemple, « Celui qui épargne le fouet n'aime pas son fils, mais qui aime bien châtie bien, je t'apprendrai à te battre chez moi. » Alors vous voyez, Schweig, ce qui arrive aux gens qui m'honorent, pas les prêtres, plaisanta le fait courat. Saint Jean Bouchard a dit, celui qui n'honore pas le prêtre n'honore pas Jésus-Christ. C'est lui qui offense Jésus-Christ, offense le prêtre qui en tient la place. Mais il faut nous préparer convenablement pour demain. Allez, faites une omelette au jambon et du grog. Il existe au monde une race obstinée que rien ne décourage. Le monsieur, mis deux fois à la porte de chez le Feldkurat, en faisait partie. Pendant que Schweig s'occupait du dîner, on sonna. Schweig alla ouvrir et revint dire « Oh, c'est encore le type de tout à l'heure, monsieur l'aumônier. Je l'ai enfermé dans la baignoire pour que nous ayons le temps de dîner tranquillement. » « Ah non, vous n'agissez pas bien, Schweig. Qui reçoit un autre soit Dieu. » Aux temps anciens, les seigneurs admettaient à leur table les bouffons monstrueux pour les divertir à leur festin. Apportez le type pour qu'il soit notre bouffon. L'individu persévérant apparut. Asseyez-vous, fit aimablement le Feldkurat, nous sommes en train d'achever notre dîner. Il y avait une langouste et du saumon et nous passons à l'omelette au jambon. « Ben oui, on se régale, puisqu'il y a des gens assez bêtes pour nous prêter de l'argent. »« J'espère que vous ne vous payez pas ma tête, au moins, » dit le convive inattendu. « Voilà trois fois aujourd'hui que je viens vous voir. Il faut absolument nous entendre. »« Je vous déclare avec obéissance, » dit Schweig, « que ce monsieur est doué d'une fière persévérance. Il me rappelle un certain Bouchek de Liban. » Une fois, dans une seule soirée, il a été mis 10 fois à la porte de la taverne d'Exner, où il y est rentré chaque fois sous prétexte qu'il avait oublié sa pipe. Il rentrait par la fenêtre, par la porte, par la cuisine, en sautant le mur du jardin, en montant de la cave au comptoir. Et il serait certainement rentré par la cheminée si les pompiers appelés en hâte ne l'avaient pas fait descendre du toit. Avec tant d'esprit de suite, bien, il a pu devenir ministre ou député. L'intrus faisait semblant de ne rien entendre. Il répétait opiniâtrement « Je veux que la situation soit éclaircie et je désire que vous m'écoutiez. »« D'accord, » fit le Feldkurat, « parlez, s'il vous plaît, honoré monsieur. »« Oh, vous pouvez même parler aussi longtemps qu'il vous plaira. »« Nous autres, en attendant, nous allons continuer notre festin. »« J'espère que ça ne vous dérangera nullement. »« Schweig, vous pouvez servir. » « Mais vous savez aussi bien que moi, » commença l'obstiné, « que nous sommes en temps de guerre. La somme que vous me devez, je vous l'ai prêtée avant la guerre, et sans cette guerre-là, je n'insisterai pas pour le paiement immédiat. Mais j'ai eu récemment de bien tristes expériences. » Il tira un calepin de sa poche et continua. « Tout est inscrit là. » Le lieutenant Janota me devait 700 couronnes, il a osé tomber sur la Drina. Le sous-lieutenant Pratchek s'est fait faire prisonnier au front russe, et il me doit 2000 couronnes. Le capitaine Wichterle, qui me doit la même somme, s'est fait massacrer par ses propres soldats à Rawaruska. Le lieutenant Machek, qui est prisonnier des Serbes, me doit 1500 couronnes. Et j'en ai encore pas mal comme ça. Il y en a un qui tombe dans les Carpates, un autre se loie en Sibérie, un autre encore meurt dans un hôpital en Hongrie, et pas un ne se soucie de ce qu'il me doit. Vous comprenez maintenant mes raisons. Vous voyez bien que je sortirai ruiné de cette guerre s'il ne me décide pas à devenir énergique et impitoyable. Vous allez faire valoir peut-être qu'avec vous il n'y a pas péril dans la demeure, parce que vous êtes à l'arrière, mais tenez. Il mit son calepin sous le nez du Feldkurat. « Lisez vous-même. L'aumônier militaire Mathias, décédez-le dans ce pavillon des colériques. Il y a de quoi devenir fou. Quelqu'un qui me doit 1800 couronnes et qui s'en va tranquillement donner l'extrême onction au premier venu atteint de choléra. C'était son devoir, cher monsieur, dit le Falcourat. Demain, moi aussi, je vais administrer. Et dans une baraque à choléra, la même chose, ajouta Schweik. Vous n'avez qu'à nous accompagner, vous verrez ce qu'on appelle des gens qui se sacrifient. Monsieur l'aumônier, insista l'autre, croyez-le, je suis dans une situation plus que précaire. On dirait vraiment que cette guerre est faite exprès pour supprimer de la face du monde tous mes débiteurs. Quand vous serez soldat, vous savez qu'on prend maintenant les civils, et quand vous irez au front, nous dirons avec monsieur l'aumônier une messe pour que le bon Dieu daigne se souvenir de vous et régler votre compte avec le premier shrapnel parmi les lignes ennemies. Mais monsieur l'aumônier, c'est très sérieux, dit l'entêté. Je vous prierai d'enjoindre votre ordonnance de ne pas se mêler de vos affaires. Je voudrais bien que nous puissions nous entendre. Excusez pour la discrétion, monsieur l'aumônier, déclara Schweik. Mais il faudrait en ce cas me donner alors l'ordre formel de ne pas me mêler de vos affaires. Sans cela, je ne cesserai pas de défendre vos intérêts, comme doit le faire du reste tout soldat qui se respecte. Ce monsieur a raison de vouloir sortir d'ici de sa propre volonté. J'aime autant ça parce que dans ces choses-là, j'agis toujours en homme bien élevé. Mon petit Schweik, dit le Feldkurat, feignant de ne pas s'apercevoir de la présence de son créancier, ça commence à m'ennuyer. J'avais cru que cet homme pourrait nous amuser et qu'il nous raconterait des petites histoires assez drôles. Et voilà qu'il me demande de vous empêcher de vous mêler de mes affaires, quoiqu'il ait dû bien comprendre que rien ne se faisait sans vous dans cette maison. En une soirée comme celle-ci, à la veille d'une cérémonie religieuse si grave, qui exige de ma part un entier recueillement et une complète élévation vers Dieu, il vient me déranger avec une misérable histoire de quelques centaines de couronnes, il me distrait de sonder ma conscience, il me détourne de Dieu et m'oblige à lui déclarer une dernière fois qu'il n'aura rien de moi aujourd'hui. J'entends ne plus lui adresser un seul mot. Cette soirée qui doit être sainte pour nous pourrait se gâter. Dites-lui vous-même, Schweik, que monsieur l'aumônier ne vous donnera rien du tout. Schweik hurla ces paroles dans l'oreille du créancier sans que celui-ci bougeât d'une ligne. Schweik, reprit le Feldkurat, mais demandez-lui combien de temps il compte encore rester ici. Tant que je ne serai pas payé. Le Feldkurat se leva, alla à la fenêtre et dit « Oh, bon, dans ce cas-là, je le remets entre vos mains, Schweik. Faites-en tout ce que vous en voulez. » « Suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît, » ordonna Schweik, en empoignant le créancier par l'épaule. « Il faut que je vous expulse encore une fois. Toutes les bonnes choses sont au nombre de trois. » D'un geste rapide et élégant, il répéta son tour de force de tout à l'heure, tandis que le Feldkurat tambourinait de ses doigts sur la vitre une marche funèbre. La soirée consacrée aux méditations comprit des péripéties diverses. Le Feldkurat s'éleva vers Dieu avec tant d'énergie et de ferveur que, passé minuit, on entendait encore la chanson suivante s'échapper de l'appartement. Quand nous autres soldats quittons le village, toutes les belles filles pleurent sur notre passage. Et le brave soldat Schweik soutenait de sa voix celle de son maître. Deux militaires aient désiré recevoir l'extrême onction. Un vieux lieutenant-colonel et un employé de banque, officier de réserve. Tous les deux avaient le ventre troué d'une balle reçue dans les Carpates et leurs lits étaient voisins. L'officier de réserve croyait de son devoir d'imiter son supérieur qui, lui, avait fait appel au dernier sacrement par un adroit calcul car il espérait que les prières d'un prêtre l'aideraient à recouvrer la santé. Mais ils moururent la nuit qui précéda l'arrivée du Feldkurat. « On a fait tant le chambard, monsieur l'aumônier, et tout ça pour rien. Ces malheureux nous ont tout gâté, » dit Schweik, outré, lorsqu'on lui apprit au bureau de l'hôpital que ces deux-là n'avaient plus besoin de rien. Quant au chambard, Schweik n'exagérait pas. Ils avaient pris un fiacre ouvert. Tout le long du trajet, Schweik agitait la sonnette et le feldkurat, qui tenait en main la bouteille d'huile enveloppée dans une serviette blanche, bénissait au passage les gens respectueusement arrêtés et nu-tête. Ils n'étaient pas trop nombreux, malgré le bruit infernal fait par Schweik avec sa sonnette. Quelques gamins couraient derrière le fiacre, et lorsqu'un d'eux s'accrochait à l'arrière-train, les autres signalaient au cocher cette charge supplémentaire. Au cri de ces garnements se mêlait le tintement de la sonnette et le bruit du fouet que le cocher ne cessait de faire claquer. Dans la rue Brolikova, une concierge ayant rattrapé enfin la voiture qu'elle suivait au trot, ayant récolté 3 bénédictions, donna libre cours à son indignation après avoir fait un signe de croix et craché par terre. « Et ils galopent leur bon Dieu comme tous les diables. On attraperait facilement une fliction de poitrine en leur courant après. » Le bruit de la sonnette irritait le cheval. Il devait susciter certainement chez cette bête de lointaines réminiscences, car elle rejetait à chaque instant la tête en arrière et faisait mine d'exécuter des pas de danse au rythme du tintement. Au bureau, le feldkurat se borna à régler le côté financier de son dérangement. Il signifia au sergent-major que l'intendance militaire lui devait 150 couronnes pour le déplacement et pour l'huile bénite par l'évêque. La réclamation du feldkurat donna lieu à une discussion très animée entre lui et le commandant de l'hôpital. À plusieurs reprises, le feldkurat frappa du poing sur la table en criant « Mais il ne faut pas vous imaginer, capitaine, que l'extrême-onction se donne gratis pro deo. » Quand un officier de cavalerie est commandé pour un service dans les haras, il a droit à son indemnité et ce n'est que juste. Je regrette que vos deux blessés n'aient pas pu attendre leur extrême-onction, mais ça vous aurait coûté 50 couronnes en plus. » Pendant ce temps-là, Schweik attendait son maître dans la salle du corps de garde, où la bouteille d'huile bénite excitait un vif intérêt. Un soldat opina que cette huile conviendrait épatamment pour nettoyer les fusils et les baïonnettes. Un jeune conscrit originaire d'un pays du plateau de Tchéco-Morave supplia ses camarades de changer de conversation et de laisser tranquilles les mystères de la religion. « Le devoir d'un bon chrétien est d'espérer, » proclama-t-il. Un vieux réserviste jeta un regard sournois sur le bleu et déclarait « Ben, espérer, oui, qu'un shrapnel te coupe la tête. Tout ce qu'ils nous ont débité, c'était des menteries. Dans notre patelin, il est venu une fois un député du parti clérical et ce coco-là a parlé d'une paix divine planant au-dessus de la terre entière. » Et raconter que le bon Dieu réprouvait la guerre et ne voulait que voir les hommes éternellement vivre en paix et s'aimer comme frères. Cette bonne blague! Nous voilà en pleine guerre et qu'est-ce qu'on voit? Dans toutes les églises de tous les pays, les prêtres prient pour le succès des armes. Ils traitent le bon Dieu comme le chef d'un état-major universel qui combinerait les opérations sur tous les fronts à la fois. Dans cet hôpital-là, ce que j'en ai vu, des enterrements militaires, des fourgons pleins de jambes et de bras coupés. Mais on enterre les soldats tout nus, dit un autre. Les uniformes, on les garde pour les servir aux vivants. Mais tout ça, c'est en attendant la victoire, fit remarquer Schweik. Un tampon comme toi, tu parles de gagner la guerre, dit un caporal de son lit. Mais si ça dépendait de moi, je vous enverrais tous au front, dans les tranchées. Je vous ferais galoper comme on nous a fait à nous tous autres, contre les baïonnettes de l'ennemi, contre les mitrailleuses, et je vous ferais tomber dans les trous à loups et danser sur du terrain miné. Tous ces gens sont d'accord pour se la couler douce à l'arrière, et personne ne veut se faire tirer sur le champ de bataille. Oh, ils sont plus malins que nous. « Pour moi, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de se faire perforer par une baïonnette, » dit Schweik. « Et c'est pas si mauvais que ça non plus de recevoir une balle dans le ventre ou bien de se faire mettre en pièces par un shrapnel. On doit être plutôt étonné de voir ses jambes et son ventre fausser compagnie au reste du corps. On a le temps d'être mort avant d'avoir compris ce qui vous arrive. » Le jeune conscrit poussa un soupir. Il regrettait d'être si jeune et se demandait pourquoi il était justement né dans un siècle où on conduisait les jeunes gens à la boucherie comme un bétail aux abattoirs. Mais quel était le sens de tout cela? Un soldat, instituteur dans le civil, fit observer, comme s'il lisait les idées du bleu, « Ben, certains savants expliquent les guerres par l'apparition des taches solaires. Une tache solaire annonce toujours un grand malheur pour l'humanité. La prise de Carthage... « Oh, tu ferais bien de garder toute cette science pour toi, » interrompit le caporal. « Il vaut mieux que tu voies balayer proprement la chambre. C'est ton tour aujourd'hui. Ces blagues de taches solaires, on s'en fout. C'est pas encore elles qui nous font sortir de ce fourbi-là. Tu peux être tranquille. » « C'est pas une blague, ces taches solaires, » réclara Schweik. Une fois, moi, j'ai vu une tache comme ça, et le soir même, j'ai été rossé chez le bistrot Bansett à Nuissé. Depuis ce temps-là, chaque fois que j'ai eu l'intention d'aller quelque part, j'ai consulté le soleil pour voir s'il n'avait pas de tache. Et quand il en avait, alors adieu les gars, je suis toujours resté chez moi. C'est grâce à ça que je vis encore. Vous vous rappelez aussi ce volcan, le Mont Pelé, là, qui a complètement détruit l'île de la Martinique? Eh bien, il y a eu un professeur qui, avant l'éruption de ce volcan, avait écrit un article dans la Politique nationale où il annonçait qu'il y avait une grosse tache au soleil et qu'un malheur allait se produire bientôt. Mais voilà, la Politique nationale n'est pas arrivée à temps dans cette île. Les gens n'ont pas été prévenus et ils ont dû trinquer. Parce que la poste, c'est une pétrodière. Au bureau où il discutait encore les frais de son déplacement, le Feldkurat rencontra une déléguée de l'Association des Dames Nobles pour l'éducation religieuse du soldat, vieux tableau hideux et repoussant, qui tous les matins venait distribuer aux malades et aux blessés des images de sainteté que ceux-ci s'empressaient de jeter aussitôt dans les crachoirs. Elle exhorte les soldats à se repentir sincèrement de leurs péchés et à devenir meilleurs pour que le bon Dieu leur accorde après la mort son salut éternel. Pâle et émue, elle s'entretint longuement avec le Feldkurat, lui disant que la guerre exerçait une influence déplorable sur les âmes des soldats. Au lieu de les élever à un niveau spirituel supérieur, elle en faisait de véritables brutes. Dans la salle du bas, les patients lui tiraient la langue, osant traiter leur bienfaitrice de vieille scie et de souris d'église. « Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat, das Volk ist verdorten. » Et elle se mit à expliquer comment elle comprenait l'éducation religieuse du soldat. C'est le soldat qui croit en Dieu et qui possède une foi profonde, qui se battra vaillamment pour son empereur, et ne craindra pas la mort, puisqu'il sait que le paradis l'attend. L'infatigable discoureuse n'aurait peut-être jamais fini si le Feldkurat ne s'était pas résolu à prendre congé d'elle au défi de toute galanterie. « Schweik, nous allons partir » cria-t-il dans le corps de garde. Quelques minutes après, la voiture les ramenait au logis, sans chambard cette fois. « Plus jamais ils ne m'auront allé à administrer, » prononça le Feldkurat. « Oh, il faut bien s'adresser à quelqu'un d'autre. Pour chaque âme à laquelle je suis prêt à apporter le salut, je suis obligé de marchander avec eux comme à la foire. Ils ne voient que leur comptabilité, les bandes de voleurs. » Et apercevant la petite bouteille d'huile bénite que Schweik tenait à la main, il se rembrunit et proposa « Bah, on pourra s'en servir pour graisser nos chaussures. Ça vaudra encore mieux. Je tâcherai d'en mettre aussi à la serrure et faire un vacarme du diable quand vous rentrez la nuit. » C'est ainsi que se termina une extrême onction qui ne fut pas administrée.